Futur Terrain, émission mensuelle sur Jet FM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design. Bonjour, bienvenue dans Futur Terrain. Aujourd'hui, je vais me livrer un exercice différent, à savoir vous lire des extraits d'une autobiographie de Enzo Mari, donc artiste, designer et théoricien militant politique, qui a été l'une des figures les plus importantes de la culture italienne de la seconde moitié du XXe siècle et des premières décennies du XXIe. Sa conception du design, fondée sur les vrais besoins de l'être humain en dehors des contraintes du marché, et sa vision de l'art comme instrument de connaissance et d'appropriation du réel, propose une théorie critique de la société encore extraordinairement actuelle. Dans son ouvrage, intitulé « 25 façons de planter un clou », et publié aux éditions du Presse du Réel, il explore 60 ans d'idées et de projets pour défendre un rêve. Cette édition a été préparée sous la direction de Barbara Carnavelli, qui est philosophe, elle enseigne l'esthétique sociale à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, mais aussi de Barbara Casavecchia, qui est critique et commissaire d'exposition indépendante. Elle vit entre Venise et Milan où elle enseigne à l'Académie des Beaux-Arts de Brera. Aujourd'hui, je vais sélectionner trois axes de lecture. Le premier, gestes et apprentissage. L'idée va être plutôt de voir comment on peut apprendre par la main le bricolage et faire le lien entre la pédagogie, les ateliers et la capacité d'agir des habitants. Le deuxième axe sera celui plutôt d'une critique de l'industrie et du consumérisme que porte Enzo Mari. Je lirai des extraits sur l'aliénation des objets inutiles et l'idéologie cachée dans les formes. Et enfin, le troisième axe explorera plutôt la partie utopie et la responsabilité du design. Donc nous verrons ensemble donc des passages sur les rêves, la responsabilité, la désobéissance au marché et voir aussi quel avenir ça peut ouvrir pour le design des territoires, les pratiques de terrain et les alternatives. « 25 façons de planter un clou » est un livre assez inclassable, à mi-chemin entre un traité pédagogique et un petit platon pour designer. Son auteur, Enzo Mari, né en 1932 à Serrano, village du Piémont situé près de Novare, au sein d'une famille sans moyens d'éducation, est mort à Milan en 2020, victime de la Covid. Il se définissait lui-même comme artiste par vocation et designer par choix. Enzo Mari, pour sa part, tenait à se qualifier de « projetista », un terme assez difficile à traduire en français, mais indispensable à la compréhension de l'histoire du design en Italie. Dans la préface de l'ouvrage, Barbara Carnavelli précise que le bon design englobe la conception intellectuelle, les rapports avec l'entrepreneuriat et les commanditaires, les conditions et la qualité du travail, la qualité du projet, ainsi que la relation avec le consommateur, lequel cesse d'être consommateur passif pour devenir sujet au moment où il se réapproprie l'objet qui avait échappé au travail de ses mains et de sa propre pratique. Chaque projet raconté dans ce livre est donc une utopie en miniature, dans laquelle Mari condense l'image du monde qu'il devrait être, ou comme dans les objets ultérieurs, l'image négative de ce qu'il ne devrait pas être. La pensée de Mari peut être mise en dialogue avec celle des théoriciens contemporains les plus fascinants. Bruno Latour, Peter Sutterdijk, Arjun Appadurai, Tim Ingold. Le design est la pratique humaine par excellence. La conception est une entreprise collective, sociale et donc politique. Le design est frère de l'art et de la science et partage avec ses deux premières activités humaines la vocation à la recherche, l'inventivité, la volonté de résoudre concrètement les problèmes, mais aussi la rigueur logique et méthodologique, la rationalité, la transparence et la reproductibilité des procédures, caractéristiques qui rendent possible le partage collectif et la vocation démocratique de la connaissance. 25 façons de planter un clou. 60 ans d'idées et de projets pour défendre un rêve, l'autobiographie d'Enzo Mari. J'ouvre le livre et nous allons lire un extrait du premier chapitre, partons de zéro. Je suis convaincu que le design correspond à une pulsion profonde de l'être humain, comme l'instinct de survie, la faim ou le sexe. Nous sommes une espèce qui veut transformer son environnement. Concevoir un projet est une activité qui implique toutes sortes de pratiques dès lors que l'humanité essaie d'améliorer ses normes ou lorsque, par contradiction, elle trouve des solutions autres, du travail d'un plombier ou d'un professeur des écoles aux efforts de ceux qui tentent de redéfinir tel code législatif ou linguistique, de ceux qui voudraient rationaliser notre mode de vie, de la cuillère à la ville, pour reprendre le célèbre slogan de l'architecte Ernesto Nathan Rogers. Chacun de nous fait des projets tous les jours lorsqu'il est contraint de prendre ses propres décisions, aussi banales soient-elles. Par exemple, devoir cuisiner et ne trouver dans le réfrigérateur qu'un pot de yaourt et de deux oignons. Ou quand, invité à un mariage, on souhaiterait faire bonne impression, mais qu'il n'y a dans notre garde-robe que des vêtements démodés et qu'il nous faut inventer une nouvelle façon de les assortir. On procède par essais successifs, par l'évaluation empirique des différentes solutions possibles. L'humanité a évolué en concevant ce qui lui était essentiel, de l'amygdale aux outils pour allumer un feu, des structures du langage à la charrue. Pour ce faire, il a fallu des centaines de milliers d'années, durant lesquelles il n'a jamais été question de séparation entre professionnels et non professionnels. Tout le monde pouvait prendre part à la conquête du monde. Projets et conceptions se sont progressivement étendus et spécialisés, contribuant à améliorer les conditions de vie, les harmonisant avec l'environnement et les rythmes de la nature. Au cours du dernier millénaire, cependant, cette vocation pour le projet a été réduite au monopole de quelques experts et s'est traduite par l'invention d'une myriade de prothèses qui ont conduit au dépassement de tous les équilibres naturels et à l'édification d'un monde artificiel. Si bien qu'aujourd'hui, en regardant autour de nous, surgit l'impression de vivre au cœur d'une décharge où les déchets ne cessent de s'accumuler et où semble manquer un plan à même de renverser cette situation qui nous permettrait de nous en extraire. Il serait illusoire de penser que cela ne nous concerne pas. Je vais essayer d'expliquer de quelle manière, selon moi, a été conçue une invention qui a changé l'histoire, le pont. C'est là un exemple qui m'est cher et que j'ai souvent répété. Imaginons une petite communauté d'éleveurs, disons une centaine de personnes vivant sur un plateau alpin. La plaine est divisée en son milieu par une gorge au fond de laquelle coule un torrent tumultueux. De chaque côté, de grandes étendues d'herbes vertes sont propices à l'élevage des bovins. L'automne venu, toute l'herbe de l'une des deux rives a été pâturée. Et, voyant la verdure s'épanouir sur l'autre versant, les habitants veulent y mener leurs vaches. Mais la descente et la montée sont trop raides et risquées pour le troupeau, et toute tentative de traverser s'avère difficile avec la force de l'eau. Un garçon qui s'y baigne souvent découvre qu'il peut atteindre l'autre rive en marchant sur un arbre tombé en travers du torrent. Et il pense qu'en coupant deux ou trois grands arbres près du village, il pourrait faire de même pour le franchissement de la gorge, pour éviter d'avoir à descendre tout au fond. Il en parle aux anciens qui lui répondent qu'il est non seulement dangereux mais aussi très difficile de couper des troncs de cette taille. En outre, si un pont était construit, les esprits malins qui vivent peut-être sur l'autre rive pourraient bien, la nuit tombée, chercher à rejoindre leur maison. La proposition est rejetée. Les années passent et le garçon, devenu homme influent, réussit à convaincre ses concitoyens d'accepter son idée. Il explique que les esprits savent voler et que, s'il en existait, il serait déjà venu les tourmenter. Après avoir identifié de grands arbres, il les fait abattre. Et avec beaucoup de difficultés, tente de les placer à cheval au-dessus du vide. Cependant, la largeur du ravin s'avère plus importante que prévu, et les troncs dégringolent en contrebas. On se moque de lui, et pendant des décennies, les vieillards dans les étables se souviennent de sa folie en riant. Un demi-siècle plus tard, un autre jeune homme essaie de nouveau. Ayant aidé sa famille à construire une nouvelle étable en pierre sèche, il a appris comment bâtir un mur. Il lui vient alors l'idée que si les fondations en pierre étaient établies de chaque côté de la gorge, la distance entre les deux rives en serait diminuée. Et la pose des arbres pourrait être retentée. Il expose son projet aux autres membres de la communauté, qui se montrent réticents. Le jeune homme décide donc d'entreprendre son chantier seul pendant son temps libre. Certains anciens sont convaincus. Deux autres troncs finissent par être alors coupés, et enfin naît le premier pont. Ici, une exigence très forte combinée à la passion d'une personne ordinaire, sans préparation spécifique, a permis à un projet de design de prendre forme. L'exemple met cependant en évidence une autre difficulté. La communauté. Par ignorance ou par peur, s'oppose souvent aux innovations. Réaliser un projet est toujours une opération coûteuse, surtout lorsqu'il touche aux traditions ou aux intérêts. C'est comme à la guerre. Il faut avancer millimètre par millimètre en essayant de reculer le moins possible. Des compromis sont nécessaires. Tous les hommes ont la capacité de concevoir des projets, et tous naissent égaux. Pour cette raison, j'affirme que la différence entre moi et autrui, quel qu'il soit, est minime. Pas plus de 5% de méthodologie de connaissances techniques que je n'ai apprises ni dans les livres ni dans les manuels, mais grâce à l'expérience qui se trouvait alors conforme aux raisons de l'âme. J'ai passé ma vie à faire des projets, plus de 2000, mais je ne sais pas toujours sous quel design. Je sais que je ne sais pas, comme l'a enseigné Socrate, et je continue à avoir soif de connaissances, à me passionner pour la recherche.
Devo fare qualche precisazione su questo titolo. La faccio perché io reagisco sempre, tutte le cose che faccio, reagisco negando ciò che non mi piace di ciò che sta avvenendo all'interno, insomma, dei problemi di cui mi muovo. Allora, in questo momento siamo in una situazione strana, dove tutte le implicazioni del design
ma capacité à tirer quelque chose de ma curiosité envers tout ce que je touchais de mes mains, développant de la sorte une forte autonomie, s'est immédiatement manifestée dès mon plus jeune âge. Je me demande toujours d'où vient une telle disposition. Et puis, comme tout le monde, je repense à mon enfance, à la recherche d'indices. Je suis né dans une famille, avec peu de ressources et sans éducation, sans conviction politique. J'étais, et je reste un non-éduqué, même en ce qui concerne les aspects les plus simples de la vie, comme s'asseoir le dos droit, sourire à quelqu'un en parlant ou encore écrire une carte postale. Mais comme j'étais le fils aîné, mon père rêvait que je devienne professeur pour conquérir tout ce que nous n'avions pas. Cela peut sembler paradoxal, mais je crois que le fait d'avoir dû me faire tout seul a été ma chance. Cela ne signifie pas pour autant que ce soit là une recette recommandée pour tout le monde. Voici l'un des premiers épisodes dont je me souvienne. Nous vivions à Milan dans une maison de la Via San Pietro all'Orto, qui n'existe plus, devant le cinéma all'Arquino. Nous logions au premier étage avec une grande terrasse qui donnait sur l'abside en briques de l'église San Carlo située dans le Corso Vittorio Emanuele et qui servait de toit à l'atelier d'un forgeron. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Je jouais souvent là-bas. Je voyais arriver la charrette qui venait livrer le fer. J'entendais frapper le marteau et je mourais d'envie de découvrir ce qu'il y avait là-dessous. Alors un beau jour, j'ai pris un clou, un marteau et j'ai fait un petit trou au centre de la terrasse. Puis je me suis couché pour épier la fumée, le feu, tout ce qui bougeait. Un projet innocent, né de l'inexpérience et de la soif de comprendre. Le problème, c'est que le premier jour de pluie venu, mon père a été obligé de verser des dommages et intérêts au forgeron et de faire réparer le sol. Je l'entends encore crier « Comment va-t-on faire sans argent ?» Il m'a puni en me frappant avec une chaise en bois jusqu'à la briser. J'ai cependant compris ses raisons. Chez nous, survivre était une lutte. Et j'ai dû commencer tôt à m'entraîner à me débrouiller seul. J'ai commencé à subvenir à mes besoins en travaillant en tant que designer à l'âge de 30 ans. J'ai d'abord fait des choses inimaginables. Si certains pensent que choisir un métier signifie automatiquement trouver sa place, ils se trompent. Son espace à soi, il faut se le tailler, avec passion et obstination. La société ne nous l'offre pas en cadeau. Au contraire, elle tend à réduire autant que possible tout élan vers l'envie d'autonomie. Je suis presque certain que les conditionnements de mon enfance puis de ma jeunesse ont été décisifs et m'ont permis de trouver ma voie. Ce fameux 5% de compétences spécialisées supplémentaires dont j'ai parlé dans le chapitre précédent, je les ai conquis par moi-même, par la lutte. Je suis convaincu que la connaissance ne s'acquiert pas en accumulant des petits morceaux de papier, mais qu'elle implique de remettre continuellement en question qui l'on est et ce que l'on fait. Passer ces examens, un chemin s'ouvre qui ne se finit jamais. Futur Terrain, émission mensuelle sur Jet FM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design. Je ne l'ai pas encore dit, mais pendant mes années d'études à l'Académie des Beaux-Arts, j'ai épousé une camarade de classe. Et nous avons eu deux enfants ensemble, Michele et Agostina. Nous vivons dans un appartement minuscule via Cosimo del Fante, à côté de la foire des Sinigaglia. Je vois les enfants jouer devant ma table de travail et je leur parle, leur raconte les contes de fées de mon enfance. Comme je me demande souvent comment les divertir, je commence à concevoir des jeux, sans penser qu'ils seraient un jour fabriqués et vendus à une échelle industrielle. Je dis sans plus attendre que, après avoir attentivement observé leur processus d'auto-apprentissage, je suis convaincu qu'il serait juste de décerner le prix Nobel à tous les enfants âgés de 2 ans. Jusqu'à ce qu'un nourrisson commence à parler de manière intelligible, vers l'âge de 3 ans, on ne peut pas lui apprendre grand-chose par la parole, si ce n'est quelques précautions élémentaires, en répétant par exemple « non, non, non » chaque fois qu'il essaie de mettre ses doigts dans la prise électrique. Lorsqu'il naît, le nouveau-né n'a qu'une vague perception de l'être. Il ne connaît pas son propre corps. Il ne connaît pas la lumière et ne sait pas non plus lire l'espace qui l'entoure. Il n'a aucune connaissance du temps. Comment vient-il alors à tout comprendre, des choses les plus simples aux plus complexes et en si peu de temps? Grâce au processus praxis-théorie, le même principe que celui que j'ai tenté d'adopter toute ma vie. Ce qui est constitue, dans les premiers mois de la vie d'un enfant, une expérience occasionnelle, se structure progressivement comme une expérience consciente. À partir du moment où il s'en souvient, il la mémorise et la décrit à sa manière. Il s'agit déjà là d'une théorie. D'autres expériences complexes lui feront découvrir que la théorie initiale doit être corrigée ou élargie, transformée en une nouvelle théorie, et ainsi de suite. Je donne un exemple concret. Le bébé a l'instinct de téter le lait. Il ressent la chaleur du sein maternel comme un premier élément du bonheur et de la qualité de la vie. Près de ce sein, en déplaçant quelque chose qu'il ne sait pas vraiment qu'il a, comme son bras droit, l'enfant vient le toucher nonchalamment. Alors il théorise. Quand je déplace cette chose, je me sens chaud, c'est bon. Un autre jour, placé par sa mère dans une position différente, en bougeant cette fois nonchalamment son bras gauche, il touche à nouveau le sein. Et voici alors sa nouvelle théorie. Si je déplace ce quelque chose de ce côté-là, je me sens chaud. Si je fais la même chose de l'autre côté, je me sens chaud. C'est donc deux fois plus agréable. Ce processus d'acquisition de la connaissance est toujours fondé sur le 1-2-1-2, c'est-à-dire praxis théorie, corrigé, en constante évolution. C'est le même cheminement qui a suivi l'humanité il y a des millions d'années pour descendre des arbres. Je constate la même attitude chez certains adultes qui, en conservant cette pulsion dynamique du 1-2, et comme les bons scientifiques ou les bons artistes, comptent parmi les rares personnes qui parviennent à rester enfants toute leur existence. Et qu'arrive-t-il aux 99% des autres humains? Ils s'adaptent à ce que leurs parents, et je ne parle que des passionnés convaincus de bien faire, puis l'école ont enfoncé dans leur tête des notions anciennes, fausses ou anachroniques, à respecter a priori en les faisant passer pour définitive et immuable. Si je me fâche souvent contre l'enseignement dans son ensemble, c'est parce que je pense qu'il nous conditionne à ne pas être autonome, à être passif. Pour moi, le cœur de toute connaissance réside dans ce primordial et opiniâtre 1-2. Initialement, ce livre devait s'intituler « L'anima del design », l'âme du design. Je tiens à redire que cette âme est à trouver dans la qualité de la forme et dans sa recherche systématique, recherche qui a été jusqu'ici l'objet de tous mes efforts pour comprendre ce qu'est la beauté. Aujourd'hui, si on dit de moi que je suis un bon designer, c'est d'abord parce que j'ai suivi une formation d'artiste au lieu d'apprendre par cœur les misérables manuels proposés dans les écoles spécialisées. Je n'ai jamais séparé mes deux voies de recherche qui se sont entrelacées et superposées tout au long de ma vie. Le processus d'élaboration est identique. J'ai toujours suivi la même recette, la mienne. Quand on me demande un nouveau projet, au lieu d'essayer d'inventer je ne sais quoi, je me contente de mettre les points sur les i. Tenant fermement à quelques convictions, la forme doit être éternelle, hors du temps, libre de toute mode, et sa qualité doit être à la portée de celui qui fabrique l'objet, comme ce fut le cas jusqu'alors. Quand j'entre dans un atelier et que j'apprends une technique, je me dois de transmettre à mon tour un savoir humaniste, une culture de la forme. C'est là que se cache l'âme des choses. Ensuite, je me pose trois questions. Quel besoin cet objet devra-t-il satisfaire? Avec quel matériau, avec quel outil peut-il être fabriqué? Quelle forme doit-il prendre? Bon nombre de mes collègues et d'éminents théoriciens admettent que ce sont les études de marché qui déterminent ce qui est important pour les gens. Alors que nous savons bien, nous, que ces études ne sont faites que pour vendre et qu'elles doivent donc être pour le moins considérées avec suspicion. Je pense qu'il est fondamental que l'artisan d'un projet prenne comme référence sa personne et ses propres besoins. Je considère qu'il s'agit là d'une attitude plus sûre. Si l'artisan peut trouver une réponse correcte à ses propres nécessités, il est probable que celle-ci sera également la réponse la plus appropriée pour les autres. Comme cela m'arrive systématiquement, je réalise des dizaines de prototypes de formes variées. Je ne les considère pas comme de véritables objets à utiliser, mais comme les idées, le contenant, le terrain d'entraînement théorique et pratique du débutant que je suis. Ce travail aboutit à une série de 40 modèles exposés en 1959 à la galerie Danese et présentés dans le catalogue par un texte de l'architecte Ludovico Barbiano di Belgioso. Un de ces modèles est la Poutrella, poutre, obtenue à partir d'un lourd segment de poutre métallique en double T, dont j'ai courbé les extrémités vers le haut afin de lui donner l'aspect d'un plateau. Je pense que personne n'aura vraiment l'idée de le remplir d'asperges, de fruits, de chocolat, comme il m'est souvent arrivé de l'avoir dans des vitrines des magasins. Comme cela m'arrive systématiquement, je réalise des dizaines de prototypes, de formes variées. Je ne les considère pas comme de véritables objets à utiliser, mais comme des idées de contenant, le terrain d'entraînement théorique et pratique de débutant que je suis. Ce travail aboutit à une série de 40 modèles exposés en 1959 à la galerie Danese et présentés dans le catalogue par un texte de l'architecte Ludovico Barbiano di Belgioso. Un de ces modèles est la Poutrella, poutre, obtenue à partir d'un lourd segment de poutre métallique en double T, dont j'ai courbé les extrémités vers le haut afin de lui donner l'aspect d'un plateau. Je pense que personne n'aura vraiment l'idée de la remplir d'asperges, de fruits ou de chocolat, comme il aimait souvent arriver de le voir dans les vitrines des magasins. Mais c'est un succès inattendu. Aujourd'hui, je pense que cet objet est la synthèse de tout design, et pas seulement du mien, parce qu'il cherche à donner une valeur esthétique à un produit industriel. Je dois ici ouvrir une parenthèse importante et introduire une question pour moi fondamentale à laquelle j'ai consacré beaucoup de pages de mon précédent livre, Projet et passion. La relation entre design, artisanat et industrie. Je crois que la façon particulière que nous avons de concevoir ce que nous appelons design est née d'une suite d'événements qui, entre la fin du XVIIIe siècle et les premières décennies du XIXe siècle, ont changé le cours de l'histoire. La Révolution française, la Révolution industrielle, la naissance du socialisme. En Occident, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, tout était fabriqué à la main, même dans le cas de production à grande échelle comme les outres ou les briques. Prenons l'exemple d'un bâtiment public. Des architectes ou des artistes le conçoivent, mais les composantes techniques, comme les fermes, l'ensemble des poutres qui supportent le toit, les clés de voûte, les pierres taillées qui bloquent l'arc et garantissent son maintien, les sculptures et toutes les autres décorations sont quant à elles réalisées par des artisans spécialisés. Je les considère comme des créateurs, parce qu'ils appliquaient à leur production, indépendamment des circonstances, une connaissance spécifique adaptable, de sorte que chaque travail était toujours un travail de projet et d'exécution. Avant la Révolution française, il n'y avait pas de biens de consommation pour le peuple, qui constituait pourtant la grande majorité de la population. L'aspiration à l'égalité change le monde. En entrant dans les palais royaux et les monastères, le peuple est fasciné par la richesse des meubles, des vêtements, des objets. S'il sait qu'il a le droit aux mêmes choses, s'il les désire, il continue pourtant à rester pauvre. Les artisans et les petits entrepreneurs tentent de répondre à ce nouveau besoin collectif. Mais pour ce faire, ils doivent, dès l'exécution, diviser radicalement le projet en étapes. Ils inventent la chaîne de montage, qui deviendra le symbole universel de la révolution industrielle. Le travail est fragmenté en une multitude de phases différentes. Chaque main n'apprend que les gestes qu'elle doit répéter indéfiniment. Il n'est alors plus nécessaire de tout connaître comme autrefois, lorsque l'apprentissage dans l'atelier durait une décennie. Le travailleur ne doit pas réfléchir. Cela ralentirait la production, hier comme aujourd'hui. En réponse à cette aliénation, l'utopie du socialisme grandit et se fortifie, rêvant d'un avenir où les hommes seraient économiquement et socialement égaux. Le design, ou le bon projet, vient peu de temps après et en est un proche parent. Il tourne son regard vers l'utopie et, rationnellement, vers la réalité des choses. Je ne dis pas que l'avènement de l'industrie n'a été qu'un désastre. Au contraire, je crois qu'une moitié de sa production est positive, à tel point qu'une personne très pauvre peut aujourd'hui s'acheter de l'aspirine. L'autre moitié est toutefois infernale, surtout à cause de la décérébration induite chez tous ceux qui travaillent à la chaîne, des simples ouvriers aux publicitaires, en passant par les top managers. Elle a fait de la marchandise une divinité à adorer, multipliant à l'infini le nombre d'objets à posséder, pour provoquer que nous ne sommes pas tous pareils, mais bien différents les uns des autres, en vertu de tel ou tel trône en papier mâché, exhibé dans le salon. Pour l'entreprise Artemide, d'Ernesto Gismondi, je réalise le système d'éclairage agrégat. Je pars d'une utopie, que l'usine fabrique des composants distincts pouvant être achetés par le public, qui aurait alors la possibilité de régler par lui-même ses besoins spécifiques d'éclairage du plafond à la table. Gismondi, qui connaît bien le marché, n'est pas d'accord. Il affirme qu'il est impossible de vendre une chose de ce genre. Il retient cependant l'idée, et Artemide met en production les 11 éléments de base, lampes, tiges, joints, ampoules, etc. Les combinant en 72 modèles préassemblés. Ils sont tous vendus. Aujourd'hui encore, on en trouve 2 ou 3 sur le marché. La question récurrente pour moi est toujours la même. Que faire ? Nous avons une excellente tradition culturelle. L'Italie est la plus grande archive d'œuvres d'art au monde. On y trouve des livres bien faits, d'excellents professeurs. Alors comment se fait-il que les gens ne sachent pas distinguer ce qui est de qualité ? Comment puis-je les aider à le comprendre ? Je décide de prendre le taureau par les cornes. Si ces personnes essayaient de construire elles-mêmes un meuble, je me dis qu'elles ne comprendraient peut-être pas intégralement le but du design, mais qu'elles ne pourraient acquérir cette compétence critique minimale qui s'avère utile lorsqu'il faut par exemple acheter une table. J'imagine donc de proposer des exercices d'autoproduction. Ce n'est pas si simple. Il faut maîtriser des techniques complexes et disposer d'espaces et d'outils adaptés. Dans les villes, à l'époque, les échafaudages étaient toujours constitués de poteaux de bois et de planches clouées. Il m'est ainsi un jour venu à l'esprit que la culture technique la plus facile à acquérir était celle du charpentier. Il suffit de fixer 2 pièces, de renforcer le cadre avec des éléments diagonaux, empêchant toute déformation, et d'utiliser des outils tels qu'un marteau, des clous et des pinces que l'on trouve dans tous les foyers. Je dessine une 20aine de modèles de chaises, tables, étagères, lits, armoires à assembler selon ce principe, et je les accompagne d'une photo et d'instructions très simples, précisant les dimensions des planches de bois brutes à acheter dans les magasins de bricolage. J'associe à mon projet Dino Galvina, qui réalise les 19 modèles. En 1974, je les présente dans l'exposition « Proposition pour une autoconception » à la Galerie Milano, qui invite de nombreux journalistes et collègues. Un débat s'ouvre immédiatement et certains m'accusent de trahir le rôle du designer. Au lieu de créer des choses commodes pour le confort des gens, je les obligeais à travailler. Un article de 2 pages est publié dans le journal « Paese Sera ». 2 mois plus tard, le New York Times m'accorde également un bel espace. J'avais annoncé que j'enverrais le petit catalogue à toute personne qui en ferait la demande, à condition qu'elle règle les frais d'affranchissement. En un an, j'ai reçu plus de 5000 lettres. La plupart d'entre elles étaient de simples demandes de brochures, mais au moins 1 sur 10 comportait de longs commentaires manuscrits du type « J'ai vu la publication de vos propositions de meubles et j'aimerais beaucoup en acquérir pour mon chalet à la montagne dans les Alpes du Trentin, au Tadige ou dans les Rocky Mountains. J'adore ce style rustique. » L'ignorance est granitique. Mon objectif était tout autre. Comme l'explique Argan lorsqu'il affirme dans « Entretien sur la fabrique de l'art », un essai édité par Tommaso Trini, qu'en récurrent l'intervention directe de l'utilisateur, une hypothèse plutôt improbable et quelque peu calviniste, je pose le problème de la conception du design pour une société non opulente, de l'instauration d'une méthodologie projectuelle qui ne soit pas nécessairement le dépassement continu de paramètres économiques donnés. Longtemps après, pas une année ne se passe sans qu'une école de design du Canada, des Pays-Bas ou du Japon n'étudie ma proposition. On organise une exposition en présentant des variations d'étudiants. Je crois que des centaines de milliers de ces meubles ont été fabriqués, parfois même vendus aux enchères. En 2010, Artek, la société finlandaise fondée par Alvar Aalto, m'a demandé de mettre en production une chaise non montée, Cedia One. Il la vend désormais sous une forme d'une kit de tablette en bois accompagnée d'un dépliant d'instructions et d'un texte détaillant la genèse du projet. J'ai accepté. Comme eux, je crois que le design a de sens. Que s'il transmet du savoir. Futur Terrain, émission mensuelle sur Jet FM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design. La même année se tient au MoMA de New York une exposition aujourd'hui considérée comme historique. Italy, The New Domestic Landscape, organisé par Emilio Ambaz. Il réunissait 180 objets domestiques produits en Italie dans la dernière décennie, répartis entre conformistes, réformistes et contestataires, et 11 installations inédites. J'y participe uniquement avec un texte de 1971, Proposition de comportement, publié dans un numéro spécial du bulletin d'information sur l'art contemporain. Avec Léa Verginet, j'ai demandé à 52 artistes, acteurs, architectes, critiques, designers et poètes, de lire certaines de mes réflexions portant sur la communication, puis de répondre à 5 questions. 1. Énoncez vos propres visions utopiques du développement de la société. 2. Définissez-en la stratégie. 3. Dites à quel moment tactique de cette stratégie vous vous trouvez. 4. Placez votre travail de recherche dans cette stratégie. 5. Communiquez le travail en question. J'espère qu'à partir de maintenant, chaque fois qu'ils réaliseront une nouvelle œuvre, ils utiliseront ces questions comme ligne directrice pour clarifier le sens de leur travail pour le public. Tous envoient des textes cultivés et articulés, mais personne n'accepte concrètement ma proposition.
Sono andato a scuola da solo, andando dai veri maestri che sono gli autori, i quali non li guardavo come cose da imitare formalmente, perché sarebbe stata una sciocchezza di riproposta neoclassica, me ne guardo bene da fare un'affermazione, ma che mi sono stati utili per capire come mai qualcuno ogni tanto apre una finestra sull'infinito.
Une grande partie de l'enseignement, à mon avis, se résume à un bavardage absurde. Je ne prétends en aucun cas avoir été un professeur parfait, loin de là. Mais j'ai toujours essayé d'inventer un cours différent chaque année. Malgré tous mes défauts, en posant clairement le problème de la réalisation d'un projet et en apportant ma propre expérience comme référence. Si un enseignant parle de choses qu'il ne sait pas faire, il est difficile pour lui de bien les dire. Je n'ai proposé que des exercices auxquels je me suis moi-même soumis, pour poser des exemples dont j'ai vérifié la justesse à l'aide d'une cinquantaine de modèles concrètement réalisés. Qu'attend-on d'un enseignant ? Si je repense à mes années passées sur les bancs de l'école, je sais que j'oubliais presque toutes les choses que j'avais apprises par cœur. L'exercice d'arithmétique, les pages de devoirs, mais de chaque année, je me souviens qu'à un certain moment, pas nécessairement pendant les cours, quelqu'un m'a dit deux mots qui m'ouvrirent les yeux. C'est ça l'enseignement, ce qui provoque un déclic qui pousse l'élève à faire un pas en avant et à trouver sa propre passion. Dans une chronique antique, un historien grec parle d'une riche aristocrate qui paie des cours particuliers à son fils, choisissant Aristote comme pédagogue. Que c'est beau ! C'est en 1963 que pour la première fois je me suis retrouvé titulaire d'une chaire à l'école du livre de l'Humanitaria de Milan, où je suis resté jusqu'en 1967. Albe Steiner, graphiste et intellectuel, mais aussi un ami très cher, m'a appelé après avoir vu mes petits livres pour enfants, comme « La pomme et le papillon ». C'est une école très spéciale, fière de fournir aux Milan modernes de l'après-guerre ce dont il a besoin, des techniciens préparés à l'utilisation de leurs outils et conscients de la dignité de leur travail. Pas de simples rouages dans le processus de production. Les élèves, presque toujours des garçons issus de familles pauvres, ont en moyenne 14 ou 15 ans, et à la fin du cursus, ils se destinent à devenir ouvriers typographes. Ils n'ont aucune notion du dessin libre. Je leur propose donc, deux jours par semaine, des exercices de gymnastique psychophysique, celle dont je continuerai de parler toujours, même dans les cours que je donnerai à l'université. Nous savons qu'un écolier en première année de classe élémentaire apprend en quelques dizaines de jours à écrire des lettres et des chiffres sur une grille de lignes et de carrés. L'écriture implique la capacité qu'ont les doigts à faire pivoter le stylo ou le crayon pendant que la main s'arrête sur le plan de la table. Le dessin, en revanche, implique que la main soit soulevée. Les mouvements de rotation affectent l'épaule et le coude. Si ces exercices étaient effectués en première année, tous les adultes seraient capables de dessiner. Certainement pas avec l'extraordinaire habileté technique d'un Léonard ou d'un Pisanello, mais avec un degré de compétence dans la représentation de l'espace égal à celui d'un enfant qui peut rapidement former des signes et des mots sur une feuille. Chacun sait faire sa propre signature. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un signant d'une croix comme dans les westerns. En revanche, Je me suis souvent retrouvé devant des personnes bardées de diplômes qui, après m'avoir demandé conseil sur la façon de disposer le lit dans la chambre de leur fille, font un gribouillis indéchiffrable pour la représenter en s'excusant de ne pas savoir dessiner. À l'Humanitaria, je propose aux étudiants de première année un exercice redoutable qui sert à entraîner et renforcer les muscles du bras et de l'avant-bras. Je place devant un objet simple, un verre de bistrot à symétrie bilatérale, c'est-à-dire composé de deux moitiés égales. Sans poser la main sur la table, ils doivent, en tenant par le bout d'un pinceau ou un porte-plume Mitchell, dessiner le contour du verre d'un trait continu. Aucune marque de crayon, rature ni chevauchement ne sont autorisées. Le premier dessin terminé, ils doivent le refaire plusieurs fois, des dizaines de fois, des centaines de fois. Au bout de 6 mois, ils acquièrent une qualité de dessin à main levée comparable à celle d'un diplômé de l'Académie des Beaux-Arts. Ils apprennent une technique qui, comme toujours, est la racine de tout le reste. J'ai essayé d'enseigner la culture de projet au sein de disciplines qui m'ont souvent paru inadéquates. Pour leur premier projet, les étudiants ne cherchent pas de points de repère dans les livres ou dans ce qu'ils entendent au sein des salles de classe, mais dans ce que propose le système productif extérieur à l'école, qu'il s'agisse d'art, de design ou d'architecture. Un marasme dans lequel tout semble possible, tout est son contraire. Par conséquent, lorsque j'enseigne, je passe les premiers mois à déconditionner les élèves en essayant de réveiller leur capacité critique. Je le fais en parlant d'une réalité que je connais bien au niveau professionnel. Je n'arrive pas en classe avec un plan théorique préétabli. Le dialogue est la base de ma méthode. Beaucoup d'entre eux ont décidé de suivre des cours comme les miens, poursuivant le fantasme que cela les mènerait à une activité sans contrainte. Je commence donc. Pourquoi avez-vous décidé de faire ce travail? Et puis j'ajoute, de quoi voulez-vous faire le design? Après avoir commenté des réponses plus ou moins naïves ou triviales, j'explique que le design devient concret que lorsque l'on voit en regardant par la fenêtre nous paraît horrible, erroné ou faux. C'est à ce moment-là que sa nécessité se détermine, en réaction à ce qui n'est pas juste. Si tout ce que nous avons sous les yeux nous semblait utile, il n'y aurait aucune raison de concevoir quoi que ce soit. Selon moi, chaque projet comporte 2 phases. La première est le projet impropre, c'est-à-dire la reprise de quelque chose qui existe déjà. Dans le cas où cela est bien fait, il n'est pas nécessaire de repartir de zéro en l'analysant en profondeur. On comprend que la solution adoptée n'est jamais complètement correcte. C'est une phase nécessaire dans laquelle des réponses peuvent être trouvées. Toutes les formes d'une ville, de l'architecture des maisons à ce qu'elles contiennent, découlent de cette interminable activité de réédition. Vient ensuite le projet effectif. Difficile parce qu'il ne peut être mis en œuvre que progressivement par tentatives successives, en identifiant petit à petit ce qui est essentiel. Quel que soit son talent, tout designer est comme aveugle car imprégné de la culture de son temps, celle qui a construit la ville avec toutes ses contradictions. En classe, je racontais souvent l'histoire d'un auteur qui travaille les yeux bandés, la nuit dans une pièce fermée, la lumière éteinte. Je préfère parler de cette seconde phase, de l'invention et non de la répétition. C'est aussi pour cette raison que j'ai toujours organisé des ateliers dans lesquels les étudiants dialoguent entre eux et développent des modèles sur la base d'un thème collectif. Chaque proposition est commentée par moi et par tous les participants. J'essaie de les aider à faire progressivement la part des choses entre les différentes options possibles. Lorsqu'ils n'y parviennent pas, j'interviens en proposant des solutions. Je dois préciser que, ne voulant pas proposer de solutions toutes faites, j'ai délibérément choisi des thématiques encore jamais abordées dans mes recherches, pour vérifier comment, avec notre bandeau noir sur les yeux, nous pouvions trouver une solution viable. Le point fondamental est que le projet consiste en son processus et non en l'obtention immédiate d'une solution optimale. Même lorsque l'étudiant me propose un modèle acceptable, je lui demande régulièrement de le remettre en question et d'en m'en soumettre d'autres. L'objectif de la fin de l'année n'est pas d'avoir construit une série de jolis modèles, mais d'avoir effectué un long cheminement à travers de nombreuses possibilités de conception. Un organisme gouvernemental de la préfecture de Gifu, au cœur du Japon, m'invite à donner une série de conférences sur la culture du design italien pour les entreprises de la région montagneuse autour de Takayama, une petite ville célèbre pour son travail du bois et dont les charpentiers ont construit les temples légendaires de Kyoto et de Nara. Dans les années qui suivent, j'y retournerai aussi pour rencontrer les artisans qui travaillent le fer, les revêtements en céramique et certains plastiques. Après la Première Guerre mondiale, le gouvernement n'a favorisé et promu que l'industrie lourde au mépris de l'artisanat traditionnel et des petits producteurs. Mais il s'est ensuite rendu compte de son erreur et a inversé la tendance. Mon voyage est le fruit parmi d'autres de cette repentance. Ma tâche consiste à visiter 5 ou 6 entreprises, à commenter leurs produits et à discuter avec les artisans et les départements de production. À la fin des réunions, une par jour, je dois faire une conférence. je décide de mettre l'accent d'une part sur la qualité ancestrale de la production artisanale japonaise et d'autre part sur le risque de sa disparition dans un monde bouleversé par la culture industrielle. Je me réfère à la période Meiji, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, où, avec l'arrivée de la culture occidentale, un débat s'est engagé, jamais conclu à ce jour, sur les éléments qu'il fallait acquérir et ceux qu'il fallait conserver. J'essaie de préciser que la culture occidentale ne repose pas uniquement sur l'industrie et le marché américain, mais qu'elle plonge ses racines dans un passé lointain. Elle remonte à la Grèce antique et aux idéaux éthiques de l'époque classique, et toute la philosophie occidentale s'est développée autour de la dialectique entre éthique, Platon, et matière, Aristote. En Italie, les artisans sont encore imprégnés de cette culture et sont capables de réaliser des choses idéalement parfaites. Idem au Japon, où les racines se trouvent dans le shintoïsme, sa plus ancienne religion. Je raconte comment je me suis rendu compte, lors de mon premier voyage dans le pays, en 1972, pour un congrès de design lié à l'ADI, quand, traversant dans une forêt, je suis tombé sur un temple shintoïste. La porte d'entrée était toujours maintenue ouverte, et au fond du temple se trouvait la plus belle représentation de Dieu que j'avais jamais vue auparavant. Un miroir en bronze tourné vers la porte, orienté de manière à refléter le grand arbre sacré à l'extérieur, un grand rocher à proximité, et évidemment, le fidèle qui s'apprêtait à entrer. Un ami japonais m'avait expliqué qu'il y a des siècles, il y avait aussi un cheval vivant qui avait été remplacé ensuite par une statue qui a depuis disparu. L'image divine était composée de tout ce qui apparaissait dans le miroir, synthèse de la nature minérale, végétale, animale et humaine. Cette image, pour moi, résume l'essence de la culture japonaise, un grand respect de la nature et de la capacité de reconnaître l'être humain comme l'une de ses composantes. L'Italie et le Japon partagent une histoire similaire. Pendant un millier d'années, le Japon a lui aussi été divisé en de nombreuses petites seigneuries féodales qui se sont combattues. Le plus petit dénominateur commun, en Italie, était l'Église, au Japon, l'Empereur, qui jouait un rôle religieux et symbolique fondamental. Avec une grande différence toutefois. Durant des siècles, l'Italie était une colonie appartenant à d'autres États, de sorte que les Italiens n'ont aucune considération pour les gouvernements, tandis que le Japon a un profond respect pour ses dirigeants et les systèmes hiérarchiques. Dans les conférences, j'explique comment l'architecture japonaise a intimement influencé le modernisme, ainsi que des œuvres d'art telles que le jardin zen du temple Ryojanji à Kyoto, que j'estime comparable à la chapelle Sixtine dont il est le contemporain. Je parle également des nombreux défauts de la production industrielle actuelle qui se condensent autour de ce qu'on appelle aujourd'hui design. Je ne m'attends certes pas à ce que quelqu'un me demande un projet, et c'est pourtant ce qui arrive. Senzo Okada, Okada-san comme j'ai appris à l'appeler, me demande de l'aide. Il a récemment acheté une ancienne usine de bois massif, la Ida Sangyo. Dans la région des alentours de Takayama, il y a de grandes forêts. La culture en a détruit beaucoup, et après-guerre, les bois les plus nobles ont été utilisés pendant la reconstruction. Ainsi, le Suji, cyprès spontané et envahissant qui étouffe les autres arbres, s'est reproduit de manière démesurée, poussant aussi épais que les épis d'un champ de blé. Depuis des années, le problème se pose de savoir comment éclaircir les forêts. Le bois de Suji est mou et plein de nœuds, et n'est jamais été utilisé pour construire des objets, uniquement des poutres, des emballages ou pour faire du bois de chauffage. En collaboration avec un groupe de chercheurs universitaires, Okada a mis au point une technique de compression des fibres qui donne aux planches la dureté souhaitée, réduisant leur volume d'un tiers. Il me demande de concevoir une série de meubles, chaises, tables, lits, armoires, avec ce matériau, en ajoutant que, à ses yeux, les nœuds de Suji sont beaux. Je l'embrasserai. C'est la première fois que je parle à un entrepreneur qui a la passion et le courage de développer un projet de ce genre. J'ai déjà dessiné de nombreux meubles en bois, mais à chaque fois avec le souci strict d'effacer les nœuds et l'élégance du veinage. C'est un gaspillage absurde. De cette matière, on ne peut obtenir que trois chaises à partir d'un œillet centenaire. Il m'est arrivé de voir de fausses nervures droites sur les veines naturelles. Okada et moi discutons avec ces 200 ouvriers, leur expliquant qu'il est nécessaire de produire à moindre coût pour rester compétitif. Une partie du travail devra être industrialisée et les opérations répétitives de travail à la chaîne se feront par roulement en petits groupes. Le département technique comprend également de très jeunes garçons, tout juste embauchés comme ouvriers. Les deux premières années de formation doivent se dérouler dans ce secteur. Je découvre qu'il y a dans la cantine un panneau de 3 mètres de long avec les photos de tous les employés classés par ordre de recrutement. Lorsque vous entrez dans une usine, vous y restez pour toujours. Je cherche le portrait du directeur. C'est un quadragénaire. Il se tient au milieu de tous les autres, sans distinction d'aucune sorte. Je travaille en partie en Italie, mais deux ou trois fois par an, je me rends au Japon, où je discute et me confronte aux différents problèmes techniques et formels du projet collectif, et en l'espace d'une journée, je retrouve le modèle, prêt à être amélioré. Si bien qu'en 2005, lorsque nous exposons à Tokyo, puis ensuite à la Triennale de Milan, les 25 modèles fabriqués, certains collègues japonais me demandent s'il s'agit des travaux de toute une vie. avec un soupçon de fierté, je précise que ce n'est pas le cas. Je les ai fabriqués avec les travailleurs d'IDA en seulement un an. L'exposition est accompagnée d'une grande photo du groupe de travailleurs et d'un texte dans lequel j'explique comment nous avons affronté le problème écologique, affirmant qu'à mon sens, aujourd'hui, la véritable écologie réside dans la protection des ouvriers. Le projet a beaucoup de succès dans la presse japonaise, moins auprès du marché public. Même au Japon, les nœuds font peur. Je pense qu'il est fondamental de se donner la possibilité de jouer, pour changer les choses et expérimenter de nouveaux modèles de vie. Un jour, j'ai fait la rencontre d'une jeune enseignante précaire, sérieuse et passionnée. Elle m'a dit qu'elle suivait la méthode Montessori, et j'ai eu envie de lui dire « Oui, d'accord, c'est génial !» Mais elle a été développée il y a un siècle. Notre problème n'est pas de suivre la méthode cristallisée de la docteure Maria Montessori, mais c'est de demander ce qu'elle ferait aujourd'hui. Comment, grâce à sa capacité d'analyse hors du commun, elle pourrait inventer de nouvelles règles qui iraient au-delà des normes actuelles. Pour moi, cela signifie « designer ». Sans jamais oublier de considérer l'utopie, un nouveau modèle possible, comme la rampe éthique sur laquelle prendre appui pour introduire des réformes concrètes. Pour me replacer dans mon champ de compétences, je peux dire que j'en ai terriblement assez du design au Viagra, à la chlorophylle, à l'avant-garde, métissé, écologique. Il serait temps de sortir des limites étroites du gadget, de l'ampoule et du cure-dent, pour élargir le champ de vision et se placer au cœur de l'attention d'un projet plus vaste et élargi à tous. La seule chose décente qu'avec mes moyens limités, je pense avoir toujours essayé de faire, même dans ces pages, c'est d'influencer positivement l'orientation des experts, et dans le même temps, le comportement du plus grand nombre. Je sais déjà que les intellectuels me diront que c'est un objectif inatteignable, qu'une myriade d'illusions et d'idéologies s'étant donné les mêmes ambitions et ont échoué. Cette affirmation n'est cependant plus acceptable aujourd'hui. Si les rares personnes qui disposent des outils nécessaires pour intervenir sur le désastre imminent, scientifiques, économistes, sociologues, artistes, philosophes, politiques, jette l'éponge, ils seront submergés par les besoins de la multitude et par les problèmes. Bien sûr, ils sont une minorité. Mais depuis le début de l'histoire de l'humanité, seul un nombre limité d'individus a eu la possibilité et la capacité d'exercer sa pensée critique au plus haut niveau, changeant les destins collectifs. Aujourd'hui, la soi-disant culture de masse occupe tous les territoires, saturant tous les espaces. Elle est devenue le point de référence universel. Avec l'aggravation de la crise, je crains que les possibles ailleurs, où des penseurs de qualité peuvent se réfugier et dialoguer au-delà des frontières d'un seul pays, d'une zone géographique en difficulté, ou des limites symboliques du savoir, ne se fassent de plus en plus rares. Nous sommes tous concernés, mais je suis convaincu qu'en se mettant au travail chaque jour, les intellectuels devraient consacrer une moitié de leur intelligence aux aspects techniques de leurs tâches et l'autre moitié à la recherche de solutions générales. C'est extrêmement urgent. L'homme antique avait devant lui la nature et ses cycles de renaissance, aussi bien que des monstruosités incompréhensibles, cataclysmes, éruptions, maladies, morts. Nous sommes toujours aujourd'hui dans la même situation. Mais les forces de la nature créent des déséquilibres de plus en plus violents et nous nous retrouvons face à des monstres encore plus terribles. La désorganisation planétaire, la croissance anormale de la technologie, la destruction des ressources, l'économie débridée générée par la mondialisation. C'est un chaos sur lequel l'on peut et sur lequel on doit intervenir, un dragon qu'il nous faut apprivoiser, bon gré mal gré. En écoutant ces extraits, c'est bien plus qu'un parcours de designer que l'on a traversé. C'est un projet de vie, tissé d'utopies concrètes. À chaque fois, Enzo Mari nous parle de gestes, de méthodes, de conditions de travail, de relations d'usage, comme autant de manières de dire que le design n'est pas qu'une affaire d'esthétique, mais une manière d'habiter le monde et de le transformer. Pour lui, le design doit intervenir dès le début du processus de production, là où se décident les formes, les matériaux, les modes de fabrication, et donc les rapports sociaux qu'ils impliquent. Il dénonce le design cosmétique et revendique la figure du projetista, celui ou celle qui prend au sérieux la culture du projet, qui assume que chaque forme a un effet sur la société. Cette responsabilité sociale du design résonne avec force dans notre époque incertaine, traversée par des crises et des passions tristes, qui a d'autant plus besoin d'appui solide, de valeurs claires, pour ne pas basculer dans le cynisme ou la résignation. Enzo Mari nous rappelle que le point de départ, ce sont les besoins humains essentiels, la dignité du travail, la qualité de nos milieux de vie. Chaque projet devient une occasion de se poser des questions. À qui cela profite? Comment c'est fabriqué? Que fait-on de l'effort humain, du temps, des ressources engagées? Le design pour Marie est un moyen de questionner et de transformer la réalité en restant attentif à l'identité de celles et ceux qui produisent et qui vivent avec les objets, les espaces, les services. Il nous invite à inventer de nouvelles règles, à aller au-delà des normes existantes, pour se donner le droit d'essayer, de jouer, d'expérimenter de nouveaux modèles de vie. C'est cela, designer, ouvrir des possibles. Et il ajoute, comme une boussole à garder en tête pour chaque projet, ne jamais oublier de considérer l'utopie comme la rampe éthique sur laquelle prendre appui pour introduire des réformes concrètes. Cette exigence de conscience, cette attention à l'utopie comme moteur, peuvent nous aider à imaginer des réponses vraiment ajustées aux défis de nos milieux de vie. Il s'agit peut-être, comme nous y invite Marie, d'oser cette rampe éthique et de continuer à la suivre pas à pas sur le terrain. Futur Terrain, émission mensuelle sur JetFM 91.2. Des récits pour nous inspirer, inventer et transformer nos territoires par le design.